Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà messieurs.
Oui. Mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi c'est Mika.
Moi c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue pour l'épisode numéro 6 du Raisin et des Papilles. Nous sommes toujours en compagnie d'Adrien. Salut Adrien.
Salut.
Et bien sûr, nous sommes toujours en compagnie d'Arthur.
Bonjour.
Moi j'avais une question en plus parce qu'on discutait pas mal de des amphores, enfin des jars, pour mettre tout le monde d'accord. Quelle est pour toi la vision de l'écologie? Est-ce que tu es un écologiste avec tout ce qui change, les changements actuels? Comment toi tu te places là-dedans?
C'est ce qu'on disait en off déjà avant. Je pense que chacun doit faire avec ses contradictions. Donc le parfait modèle écologiste, je pense qu'il y a personne en France qui l'est.
Non, je pense pas. Non.
J'essaie d'avoir la. Je sais que mon modèle de consommation alimentaire a drastiquement changé depuis 2 ans. Et après, tu vois, j'ai un iPhone. Faut peut-être pas dire de marque, mais il y a aussi des choses qui sont pas logiques dans ma manière de consommer. Mais je fais attention. Ouais. Là, je sais aussi que les achats sur Internet, je les ai complètement arrêtés. Disons que je me dis que c'est quand même un peu comme la biodynamie, comme on disait, de vendre du vin à l'étranger. Il y a toujours mieux à faire, mais je me dis que il faut déjà se voir ce qu'on est capable de faire au quotidien pour que ça aille mieux. Et si chacun avait cette vision de faire, ça irait déjà beaucoup mieux. On a trop souvent en France tendance à
culpabiliser.
À faire culpabiliser le mec qui veut montrer qu'il fait un effort en disant oui, tu fais un effort, mais il te manque rien, t'es pas logique par rapport à ça. Alors que si chacun faisait déjà à son échelle un début d'effort, ça irait dans le bon sens.
Ah oui, en plus, dans le vin, ce serait dommage de pas pouvoir boire des vins d'Australie, d'Amérique du Sud, etc. Parce qu'il y a des nouveaux mondes qui arrivent. Moi, j'avais fait une soirée avec Vinoteca, on avait fait un tour du monde des Riesling. Heureusement qu'on l'a fait, parce que ouais, il y a tellement de choses à découvrir. Est-ce que tu penses que tout ce changement, finalement, ce changement de gens, toi-même, t'as changé ta façon de consommer, même dans l'alcool, t'as changé de... Tu restes dans le biodynamie ou est-ce que parfois tu vas...
Non, après, ça, c'est une question qui est assez intéressante. Je pense que moi, j'aime boire de l'émotion et je trouve qu'il y a... Là, c'est horrible ce que je dis parce que c'est à l'encontre de ce que je pense, mais il y a des grands domaines, sans citer de nom, qui ne sont pas dans cette démarche certifiée biodynamie ou nature, où il y a des terroirs qui arrivent à révéler des émotions. Alors, est-ce que ces terroirs arriveraient à révéler encore plus d'émotions en étant dans une démarche plus organique, plus biodynamique ou nature, évidemment. Mais c'est déjà des grosses claques qu'on se prend. Donc
tu continues à boire des vins.
En règle générale, dans la consommation, j'ai 95-90% de vins au moins biodynamique. Parce que moi, c'est pareil, j'aime pas trop catégoriser parce que c'est un peu dans le même idée des vins d'Alsace. On aime bien simplifier les choses en mettant dans des catégories bio, biodynamie, nature, alors qu'au final, c'est des catégories qui emprisonnent plus qu'elles ne libèrent. Parce qu'au final, il y a des gens qui travaillent en bio et au final, maintenant, faire 15 hectares en bio, 100% mécanisé et plus aucun travail manuel, c'est tout à fait possible en France. Et la tendance du bio, c'est ça. Mais en même temps, le bio, c'est aussi ne plus mettre de pesticides dans les vignes. Donc c'est pour ça qu'au final, je dirais que c'est davantage, il faut se rapprocher d'une manière d'un producteur qui va être davantage, qui va faire écho en nous et que, dans laquelle on va partager. La biodynamie, c'est pareil. Je pense qu'il y a différents types de gens qui ont la... La biodynamie ne résonne pas en nous de la même manière. Donc la manière dont on l'applique n'est pas la même non plus. Et c'est le problème que j'ai avec le nature, même si j'aimerais bien qu'on m'explique un jour la définition exacte de nature, mais l'idée juste du soufre, pour moi, c'est... Pourtant, j'en bois beaucoup et je fais des vins aussi qui sont sans soufre, mais je trouve que c'est très réducteur de cantonner ça à une histoire de nature, parce qu'au final, il y a des histoires qui sont derrière, qui sont passionnantes, qui dépassent la nature. C'est comme si un restaurant, le fait qu'il n'y ait pas de sel ou du sel, ça, c'est une influence directe sur la vie qu'on va avoir du plat. Et c'est quelque chose, moi, que je suis pas encore tout à fait à l'aise avec et tout à fait au clair.
Comme d'habitude, pour l'épisode numéro 2 de Chaque Vigneron, nous partons sur un petit débat parce que on a envie aussi de progresser, de voir comment évolue notre région, puisqu'on l'aime et on défend ses vins. Mais parfois, il y a des petites choses qui nous titillent. D'ailleurs, j'ai un petit coup de gueule à la fin de l'épisode. Non, pas que ça me titille, mais je pense qu'on pourrait faire mieux en faisant rayonnant. Enfin, on en parlera en fin d'épisode. Du coup, c'est la partie d'Adrien. Quel est ton débat du jour ?
Eh ben, Arthur a fait une belle transition puisque c'est un petit peu de ça qu'on va parler. Donc le CIVA, le Comité Interprofessionnel des Vins d'Alsace, ça venait en avant depuis un mois et demi maintenant le côté bio des vins d'Alsace en mettant en avant que 25%, je crois que c'est ça le chiffre, du vignoble alsacien est soit en bio, soit en conversion. Et a fait une dégustation auquel Mickaël justement a participé pour mettre en avant ça. Est-ce que tu penses... Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses déjà que c'est une bonne idée ?
Je pense que c'est bien parce qu'effectivement, en Alsace, on est l'une des régions avec historiquement le plus de gens qui ont sauté le pas de la bio, de la biodynamie. Donc ça, c'est évident. Je pense que si maintenant le marché et on peut le voir dans les sans trop connaître la question, parce que je connais pas très bien la question, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de donner une réponse claire de quelque chose que je maîtrise pas complètement. Mm-hmm. Mais j'ai le sentiment que maintenant les metteurs en marché se rendent compte que le bio, ça commence à devenir une norme. Que si ils ne sautent pas le pas du bio, et ben ils vont perdre des parts de marché. Donc ils forcent un peu leurs coopérateurs ou leur mode de production à passer en bio. Et comme j'ai dit précédemment, le bio, il y a un million de formes de bio différentes. Il va y avoir un bio d'un salarié, enfin d'un vigneron qui peut faire 15 hectares en faisant que de la mécaniser un peu sur le modèle allemand. Mais il peut y avoir un bio de quelqu'un qui est avec trois employés, trois collaborateurs, une équipe de trois, et faire 8 hectares avec une vraie raisonnement sur le non-rognage, sur le non-effeuillage. Quoi qu'il arrive, le bio, ça devrait pas être exceptionnel, ça devrait être la base sur laquelle on part tous. Mais je pense que ça risque dans les prochaines années, il va falloir, repréciser tout ça parce qu'il y a des formes, le bio on parle, il y a aussi une part sociale dans le bio de comment est-ce qu'on se positionne et je pense qu'il y a une forme de la nouvelle manière de faire où il y en a qui le font pas pour les bonnes raisons. Je pense que les précurseurs en Alsace l'ont fait vraiment pour une idée idéologique et de lien à la terre et maintenant il y a aussi beaucoup de personnes qui y passent pour des raisons économiques et du coup ouais, mais c'est d'un côté on peut pas le reprocher parce que ça va dans le bon sens, mais c'est juste que du coup l'esprit va être un peu modifié et
c'est un peu comme les grandes brasseries qui se mettent à faire des bières pseudo artisanales parce qu'ils ont vu qu'il y avait un courant qui est arrivé.
Voilà, peut-être.
Ouais. Un peu ça.
Donc du coup,
c'est une bonne chose quand même pour effectivement pour la terre, le fait de pas utiliser de produits de synthèse et de produits un petit peu particuliers. Mais le bio industriel, tu dis que ça va venir, c'est déjà le cas là.
Ouais,
tout à fait.
C'est déjà en train d'arriver. Mm-hmm. Après, je peux parler mon coup de gueule tout de suite, moi.
Il y a plus de débat tout de suite. Le coup de gueule.
C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas qu'on mette en avant certaines. Alors de chez moi jusqu'au travail, je prends le vélo, donc je vois les panneaux d'affichage et j'ai vu alors au mois de novembre Wolf Berger qui parlait d'émotion, j'en vois là d'autres qui disent chasseur de lune en mettant en avant des créments. Alors c'est vrai que tout ça c'est bien léché, on voit qu'il y a une campagne de communication. Moi ça me fatigue parce que je me dis je bois ça, enfin on a bu dans l'épisode précédent un Münchberg 2001 Pinot Gris, ça me donne des émotions. Alors je dis pas que, alors j'ai parlé de Dagobert parce que j'étais à la soirée, c'est pas mauvais, mais je cherche l'âme du vin. Il y a pas d'âme, il y a pas de fond, il y a pas de OK, mais alors moi ma crainte que j'ai et la grande distribution est en train d'arriver, c'est qu'ils sont en train de mettre du nature partout. Donc est-ce qu'il suffit de mettre appellation nature pour dire que c'est du vin nature ?
Si tu veux, ils vont obliger à ce qu'il y ait une législation.
Apparemment,
c'est horrible à dire, mais c'est la même chose. C'est qu'il y a des gens qui ont été des précurseurs de ce mouvement dit nature, qui défendaient davantage une âme, une vision du vin, qui était commune. Au début, ils étaient quand même pas beaucoup. Ils avaient, sans être sans avoir tous les détenants et les aboutissants de ça, mais ils avaient il y avait une forme de lien, on y comprenait un peu quelque chose. Maintenant, c'est pareil, en nature, c'est la même chose, comme dans la biodynamie. Il y a tellement de versions différentes que c'est... Même dans la nature, on peut opposer deux personnes. Mmh. Dans la production, je parle.
Bien sûr, bien sûr.
Dans la manière, dans la vision du vin. Et c'est pour ça qu'à mon avis, maintenant, le fait que la grande distribution reprenne ça, parce qu'en plus, c'est, on peut tout mettre en nature sans avoir réellement de, il y a rien qui prédomine derrière, ça va être obligé de devoir, et c'est dommage parce qu'il faut toujours, à chaque fois, mettre des règlements, cadrer les choses, à tort. Et à bien aussi, des fois. Donc, c'est toujours.
Bah là, ça paraît nécessaire, justement, parce que dans la grande distribution, il y a énormément de gens qui jouent là-dessus, sur ce côté un peu, on sait pas trop ce que c'est de nature, et c'est pas juste la question du soufre. Tu en parlais tout à l'heure, justement. Et le soufre, c'est juste un point, et encore, on peut en rajouter un petit peu. Enfin, c'est encore différent.
Mais pour le grand public, c'est la question du soufre. Oui, majoritairement.
Bah, la bouteille, là, du domaine où il y a marqué sans sulfite ajouté en énorme, qui vient d'Alsace, ouais, exactement. Ouais, ça, c'est
j'ai
un problème.
J'ai bondi sur ma chaise ce jour-là. On a la chance de rencontrer après. J'ai une histoire du vin aussi avant ce podcast, mais dernièrement, j'ai parlé avec Jean-Michel Dice lors d'une soirée. Elle était fière de me présenter ses nouvelles étiquettes, et c'est vrai qu'elles sont plutôt pas mal. Mais en fait, je fais le lien entre ses affiches de communicant et son discours à lui. Le discours de Florian, le tien, je me dis, mais... Non, les émotions, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, là, moi, je bois une histoire, je bois un savoir-faire, peut-être une poésie, parce que le père est un passionné de poésie, mais ça se ressent. En fait, il y a de la personnalité. Je dis pas, encore une fois, je dis pas que Wolfberger, Dagobert ou Bestheim est mauvais, loin de là. Et je respecte aussi ceux qui boivent ces vins-là. Quelque part, ils font aussi rayonner, alors je mets entre guillemets le mot rayonner, l'Alsace quelque part dans le monde. Oui, je suis bienveillant.
J'allais dire, il faut pas taper sur eux non plus.
Non, après, c'est pas taper sur eux. Ils existent. De toute façon, maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est pourquoi on met pas plus, et je comprends pas qu'on mette pas plus en avant des petits vignerons. Alors, petits et qui font un travail de qualité, parce que encore une fois, je pense qu'on est un changement chez le client. Toi, tu le ressens aussi, t'as ouvert ton bar avec des produits de qualité, parce que tu cherches à un moment donné une identité, une histoire, une âme, etc.
Après, je pense qu'il faut pas se tromper non plus. La production des gens que t'as cités, c'est de la production de niche.
C'est ça.
Donc, à partir de là, Wolfberger, enfin, ces boîtes-là, elles ne répondent pas à des consommateurs de niche, elles répondent à des consommateurs beaucoup plus quotidiens. Enfin, je ne sais même pas à catégoriser leurs consommateurs. Mais le problème, c'est qu'on partage la même image, mais on n'est pas sur les mêmes objectifs. Mmh. Et là où je rejoins rien, c'est qu'on peut aussi se dire que l'importance qu'on voit à Wolfberger, c'est qu'ils arrivent à faire vivre, et ils ont une importance cruciale dans le sens où maintenant Wolfberger demande à que tout soit bio. C'est un impact direct et immédiat sur l'ensemble de la production d'Alsace, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont importés en raisin chez Wolfberger. Mais c'est vrai que après, c'est des questions politiques. Moi, j'y suis assez, comme je t'ai dit en off, je suis davantage concentré sur ce que moi je suis, les capacités que moi j'ai avec mon équipe, et l'esprit qu'on peut mettre dans ce qu'on on peut être acteur direct. La manière d'être acteur de l'Alsace, c'est de faire des vins de terroir avec une personnalité, et ça va être, c'est des vins ambassadeurs. Après, je peux pas influencer moi à mon niveau, ça me dépasse. C'est là, on rentre dans de la politique pure, et les tenants et les aboutissants sont des situations qui sont un peu qui ont directement des impacts directs, en plus dans les situations économiques de certaines boîtes en ce moment, qui sont directs. Et je pense que, je sais pas, d'un côté, je trouve que ça a permis à ce que les gens qui arrivent à sortir un peu de, qui sont arrivés à se créer une identité, c'est le milieu oblige à s'imposer, pas s'imposer, mais à se révéler de manière bien plus forte que si t'étais aussi porté par une région, par exemple.
Donc, la différence, je pense que la génération précédente était un petit peu mise de côté par l'interprofession, ouais. Et peut-être au niveau politique, justement. Et que maintenant, vous qui reprenez, vous êtes un peu la locomotive de la région Alsace qui a besoin de, enfin, tu parlais dans l'épisode précédent que l'Alsace a besoin de se renouveler, et puis maintenant, elle compte plutôt sur ce que... Sur
ah oui, non, mais je pense que là-dessus, après, j'étais pas là, je suis là depuis très peu de temps, donc je sais pas, mais j'ai le sentiment, oui, qu'il y a des... Ils essayent un peu de... Disons qu'il y a un changement... Ils essayent de gérer un peu la chèvre et le chou, quoi. Mmh. Ils se rendent compte qu'ils ont les deux entre... Il y a les deux qui sont présents, et il faut en même temps... Ils ont peut-être trop accentué ou trop... ils sont trop appuyés sur d'un côté, et là, ils se rendent compte que c'est de l'autre côté... Enfin, mais bon, c'est des situations qui sont pas simples.
Rééquilibrer les choses.
Ouais, ils rééquilibrent, mais d'un côté, il y a aussi une question de moyens, il y a une question aussi d'enjeux. C'est ce que je comprends aussi. Un domaine de 5 hectares, il pèse sur l'enjeu. l'ensemble de l'Alsace beaucoup moins, qui est un grand metteur en marché, qui pèse beaucoup plus. Donc, il faut trouver juste milieu. Après, moi, de ma situation, c'est facile de dire qu'effectivement, je trouve qu'il faudrait davantage appuyer des jeunes, des vignerons qui sont des révélateurs de terroir, révélateurs d'identité. Et c'est ma position, c'est ce qui serait dans mes intérêts. Et je pense qu'au final, ça serait dans l'intérêt de l'Alsace entière. Mais je comprends entièrement que de l'autre côté de la table, il y a des gens qui pensent un peu différemment. L'objectif, c'est d'arriver à organiser tout ça. Je pense que ça commence, comme on a dit précédemment, ça commence par arriver à avoir un bassin solide de consommation de vin d'Alsace en Alsace déjà, et ça on l'a pas. Et si déjà on arrive à reconquérir chacun à son niveau et que les Alsaciens soient fiers de défendre les vins d'Alsace, ça permettra déjà de s'appuyer sur un socle qui est solide et puissant. Après on pourra s'attaquer à autre chose, mais on est aussi, je m'égare un peu peut-être, mais on est aussi on est en France, mais les vins d'Alsace sont pas du tout ancrés dans, enfin c'est pas qu'ils sont pas du tout ancrés, mais dans la culture française il y a toujours un peu cette ambivalence entre germanique, et on voit qu'en final nos vins à nous, quand ils sont présentés sur les marchés mondiaux, on est davantage mis en confrontation avec des vins autrichiens, des vins allemands qu'avec des vins de Bourgogne. Ce que je dis, c'est qu'en final on a des vins qui sont très complémentaires des vins de vignobles autres que la France. Je pense que la Loire et la Bourgogne ont plus de concurrence à avoir qu'avec l'Alsace. L'Alsace, c'est dans la tête des Français, qui c'est différent, mais c'est assez intéressant, et je pense que on pourrait en discuter pendant des heures.
Merci à tous pour ce débat passionné, passionnant. Alors, évidemment, je précise, on ne juge pas les gens qui achètent le supermarché, etc. Maintenant, on incite chacun d'aller pousser les portes de nos vignerons, de nos cavistes, parce que eux sont indépendants, et je précise bien indépendants. Donc, ils vont raconter une histoire, un terroir. C'est un peu ce qu'on fait nous. Et on ne peut que vous inciter à pousser les portes des cavistes et des vignerons.
Donc pour nos très chers auditeurs, je vais faire déguster un vin qui actuellement est en chaussette, une véritable chaussette propre, je vous rassure.
Il a fait un footing jusqu'avant, je vous dis pas les odeurs. Hein.
C'est le côté de la nature.
C'est ça, c'est comme je disais, le cul des vaches, voilà, ça, c'est vraiment le cul des vaches.
C'est pas le bouchon du domaine, donc n'essayez pas de chercher les...
Arthur a dégainé son verre à une vitesse. Je vois la couleur au loin. Alors le bouchon, c'est de la cire, c'est ça? C'est rouge.
On va parler du vin d'abord et puis j'expliquerai tout après. Donc c'est un vin en France. Je vais pas essayer de chercher à faire des pièges en particulier, mais...
Oh, t'en serais capable.
Je me suis dit que ça serait intéressant. Il y a un petit piège, mais je vous dirai après.
En tout cas, c'est gourmand, hein, comme ça... Ah ouais, c'est gourmand, hein.
Wow. Wow.
C'est du vin nature, ça.
Oui, mais ça reste très drôle.
Ah non, ça sent. Je trouve que c'est très précis.
Très précis.
Et on n'est pas du tout dans l'étiquette nature que je peux avoir en tête, par exemple. Ça, c'est des vins que j'aime boire. Parce qu'on n'est pas du tout sur ce truc revendicatif de vouloir montrer qu'on est différent des autres, et au final, on n'est pas du tout sur, on perd l'âme du vin, quoi.
Après, j'apprécie pas les vins déviants ou les vins trop typés, cultivés, comme on dit. Mais
tu vois, c'est pour ça que je dis que ce serait temps qu'on leur. J'étais au Japon là il y a un mois, les Japonais qui sont très ouverts d'esprit. Pour eux, ils ont une incapacité à caler où est la nature. Donc pour eux, la nature, c'est plus que la bulimie, par exemple. Mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'un nature peut aussi être tout à fait conventionnel. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, il y a besoin de...
D'un cahier des charges et de...
Pas un cahier des charges, mais juste de faire que ce soit un peu plus clair, quoi. Parce qu'au final, il y a des gens qui ont des images de nature alors qu'ils ne sont pas forcément... Sur quoi on part, quoi.
Je sens de la cerise, de la griotte.
Exactement, on a ce côté très, très griotte, un peu confite dans cet esprit-là.
Côté confit.
Du coup, vous vous situez où, d'après vous?
Moi, je partirais déjà dans le sud parce que c'est très solaire. J'irais Languedoc.
D'accord, Arthur.
Moi, je suis un peu embêté parce que on a un projet. Mon père a initié un projet au Chili. Que du coup, je ferai goûter au repas qui suit le podcast. En fait, je retrouve, il y a un côté très sauvage, mais sauvage dans le bon sens du terme, dans le sens, pas du tout dans le sens nature, loin de là, qui me fait penser au travail qu'on fait au Chili. Donc, à l'aveugle, sans voir l'étiquette, sans que tu donnes l'information que ce soit français, j'aurais sûrement dit que je serais parti sur un pinot chilien. Mais les auditeurs vont sûrement pas comprendre, mais je vous ferai goûter après et vous comprendrez. Du coup, là, je sais pas, c'est aussi partie du sud. Partie sud, mais je suis pas très à l'aise avec les cépages.
Moi j'aurais dit Languedoc, cerise,
quel cépage du coup?
Il y a de la grenache, ça c'est clair. C'est quoi ce sourire là?
C'est génial de faire déguster à l'aveugle.
Non, moi je pense qu'on est sur on est sur le sud Beaujolais.
D'accord, t'as quand même cette fraîcheur du coup que tu
voilà,
retrouves.
C'est ça. Et je trouve que c'est un gamay qui pinote un peu.
Mm-hmm. Voilà. Les gamay?
Il y a un peu de vérité là-dedans justement.
Il y a beaucoup de faux.
On va ensemble. Non,
tu vois, Mickaël, quand tu disais que les cavistes étaient bienveillants, et ben voilà, on le retrouve là.
Et en plus, je sens sa petite.
Non, il y a un petit piège dans le sens où j'ai mis donc dans cette chaussette une bouteille qui ne correspond pas au vin. Parce que si j'avais montré la vraie bouteille, vous auriez vu que c'était une bouteille d'Alsace.
Ah bah voilà.
C'est une bouteille d'Alsace.
Oh, merde. Oh mince, on s'est fait avoir parce que en fait, on est chez un de nos futurs vignerons.
Exactement. Donc.
Mais en fait, pourquoi ? D'accord. En fait, alors je vous explique. On a une bouteille qui ressemble à rien. À côté d'une bouteille.
C'est un vigneron très sympa.
Donc on est à côté de Montpellier, à environ 800 km.
Non, mais qui ressemble à rien par rapport au vin qu'on goûte.
Ah oui, tout à fait. Ouais.
Voilà, et évidemment, la bouteille doit être respectable, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc c'est compliqué. On était parti sur du gamay, sur de la grenache.
Gamay qui pinote.
Voilà.
C'est vrai.
Et non, à mon avis, il y a de la grappe. C'est en carbo, non ?
Il y a une semi-carbo,
voilà.
C'est pour ça que
voilà,
tu as
exactement.
Et en fait, on se retrouve chez Jean, c'est ça ?
Exactement, chez Jean Dreyfus, donc qui est à Trenaille, mais un peu plus au nord d'ici, au début de la route des vins. Et c'est donc un pinot noir, mais qui travaille avec une maturité juste, donc qui pousse un petit peu les maturités, d'où ce côté effectivement très griotte et ce côté presque du sud.
Tu sais que quand on fait son épisode à lui, parce que ça va arriver dans les prochains mois, deux, trois prochains mois, il faut ramener une bouteille d'Ostertag. Ouais, ça va être gay, ça.
Mais du coup, maintenant, il l'a entendu et c'est foutu.
Non, mais il le saura, forcément.
Du coup, à l'aveugle. Mais effectivement, c'est un pinot noir, donc très forte maturité, donc on est presque dans le sud. Il y a une semi-carbo, donc il va fouler une partie des raisins, les autres laisser en grappe entière. Donc c'est ce côté assez frais, quand même.
Un croquant et une grande gourmandise en...
Complètement. Et voilà, il y a un tiers de barrique, mais ça se sent pas du tout. Ça apporte juste un petit peu de...
Ça se sent pas, il n'y a pas de traces de bois, mais on sent dans la structure qu'il y a une structure barrique.
Ouais, c'est peut-être ça qui nous fait amener un peu plus au sud aussi.
J'ai découvert ce vigneron lors du marché Noël, le marché off, où tu avais Yann Durman qui avait organisé un petit salon. Alors, ils étaient 4-5 et évidemment, je fais les 4-5 avec le podcast parce que les mecs, c'est des fadas. Et je le connaissais pas et en fait, il a un peu le look hipster qui ressemble plus à un amateur de bière qu'à un amateur de vin à la base, quand tu vois le... voilà. Mais pareil, il a une histoire assez incroyable et particulière puisque lui, il a repris, de ce que j'ai compris, le domaine de sa grand-mère. En 2017, le domaine de la grand-mère. Et c'est encore une fois une particularité de notre région qui est juste géniale. Puis le type, j'adore, il est souriant, tu vois qu'il est content d'être là et de proposer ce qu'il fait. Tu connais
Non. C'est la première fois que je goûte son vin. Et c'est très bon.
Mais il a repris le domaine qu'en 2017, donc il a commencé tout de suite en bio.
Il est un peu dans ta lignée, finalement. C'est ta génération. Alors, il est un peu plus vieux, je pense, que toi.
Oui.
Sans lui faire injure.
Mais dans le style, c'est aussi dans l'idée de faire du vin nature, mais être très droit. Et c'est vraiment très intéressant pour ça. C'est une passerelle un petit peu vers ceux qui ne connaissent pas le nature et qui disent « Ouais, le nature, c'est pas bon », et puis ça permet de découvrir un petit peu.
Tu vois, moi, les rouges chez nous, ils sont aussi nature. Je trouve que le vrai challenge, c'est d'arriver à faire des blancs nature. Je trouve que faire des rouges nature quand t'es dans des vignes qui sont à l'équilibre avec des raisins et une bonne macération, la matière se suffit à elle-même et c'est plus simple. Mais faire des blancs avec le risque de sucre résiduel, c'est là où il y a un vrai challenge.
C'est pas faux, ouais. Et puis t'as les tanins qui aident aussi à
exactement,
garder...
Exactement, qui habille et qui préserve.
C'est
et...
pour ça que les vins de macération, c'est aussi un peu plus facile à
aussi.
Faire que des vins
et puis
blancs,
t'es sec, quoi. Mm-hmm. Alors que quand tu fais des Riesling ou n'importe quel cépage sur 10 ans de fermentation, 10 mois, pardon, 10 ans, c'était un peu trop, mais 10 mois de fermentation, à la fin, tu arrives à un moment où les levures patinent, il te reste quand même 3 grammes ou 2 grammes. Et ça, c'est quand même un risque potentiel de refermentation en bouteille qui peut être problématique.
Il y en a qui rajoutent encore, qui font un pied de cuve et qui rajoutent de la nouvelle année un tout petit peu pour essayer de
pour les finir,
faire en sorte que ça
le problème, c'est que si ça marche pas, tu remets du sucre. Non, mais tu vois, c'est un peu le...
En tout cas, belle découverte. Bon, après, tu valides, on y va ou
bah, oui, bah de toute façon, il faut y aller. Avec,
on le podcast ou on le podcast
avec Nathan Muller.
T'en penses quoi, toi qui seras un ancien du raisin et des papilles?
Non, mais quand même, j'ai trouvé que c'était très, très charmant comme vin. Et
tu sais quoi?
Ouais.
Je te donne la date et à la rigueur, tu viens avec nous.
Ah bah allez, c'est parti.
Merci pour cette dégustation.
Je vous en prie.
On va goûter le dernier vin de Stertax, qui veut dire que la fin se profile de cette aventure.
jetzt trinken wir.
Oh là là, il n'y a peut-être pas eu d'aération, mais ils sont bons. Bon, ça trompe pas, hein. Ah ben non, on voit la couleur, pas vous. C'est aussi la première fois, je me trompe, je crois que c'est la première fois qu'on fait deux rouges en même temps. Mm-hmm. On a eu deux blancs, deux rouges. Donc on est sur un pinot noir, hein. Là, c'est...
Ouais, pinot noir, Fromage pinot noir 2018.
Je crois que c'est ta première cuvée à toi, je me sens.
Ouais, en fait, moi, j'ai repris les rouges depuis 2015 au domaine, parce que mon père n'était pas un grand... Il a fait des très bons rouges, mais c'était pas quelque chose qui lui parlait particulièrement. Donc là, on est vraiment sur un pinot noir de cru qui a besoin de temps. On est encore un peu serré, avec des tanins qui sont pour moi pas du tout exubérants, mais qui vont se fondre avec les années. On est sur un terroir argilo-calcaire, orientation assez atypique en Alsace, parce que c'est en fait une petite colline qui s'est détachée du massif vosgien avec le jeu des plaques, qui se retrouve un peu au milieu de la plaine, au milieu de nulle part, et qui regarde pleinement vers l'est. Vers l'ouest, pardon. Et en fait, les pinots noirs, j'ai pour ressenti que fait une grappe entière environ de 20%. Et c'est pas en carbo, par contre, ni en semi-carbo, c'est en remontage, uniquement des remontages. J'aime pas faire le pillage, c'est un peu comme une sorte d'infusion. Et c'est un vin qui allie, pour moi, beaucoup de structure, tout en préservant la gourmandise et le croquant du fruit et du pinot noir. J'ai beaucoup de mal avec les pinots noirs qui sont trop sérieux. Je trouve que de nos jours, maintenant, il y a une génération de vignerons d'Alsace qui ont pris le parti pris de faire des pinots noirs qui ressemblent à l'Alsace. Alors qu'avant, on était soit sur des pinots noirs qui étaient rosés, où il n'y avait pas de couleur, et qui n'étaient pas non plus en maturité ou en rendement juste. Après, la génération des vignerons qui étaient influencés par la Bourgogne à vouloir faire des pinots noirs beaucoup plus costauds, un peu que la Côte de Nuit, et ça marche pas, on n'y arrive pas. Ou du moins, il y a des terroirs qui y arrivent, mais d'autres qui n'y arrivent pas. Et je trouve que là, maintenant, il y a une nouvelle génération qui sont désinhibés par rapport au pinot noir, avec aussi le réchauffement climatique qui arrive et une meilleure compréhension de la manière de faire la vigne, de diminuer les rendements, d'être plus juste dans les ébourgeonnages et bah, tout le travail technique qui en découle. Et l'idée, c'est vraiment, le pinot noir, je trouve que c'est un cépage qui est fantastique parce qu'il se garde ce côté gourmand et croquant, comme je l'ai dit, avec un très joli fruit, tout en amenant des structures qui sont quand même assez prononcées, sans rentrer dans de la Syrah ou dans du Nebbiolo ou dans des cépages beaucoup plus tanniques. Donc là, on goûte un vin qui, pour moi, est encore trop jeune. C'est un vin qui va s'ouvrir avec le temps. Et là, on retrouve bien le côté Hronols, un terroir qui est énormément balayé par le vent. On a une assez grande verticalité, je trouve, avec une finale qui est encore un peu qui va s'assouplir et qui va se fondre avec dans les prochains mois. Mais voilà.
Voilà, c'est déjà très intéressant. J'allais te demander justement si c'était grappé ou pas, parce que t'as pas du tout la rafle qui est dessus. T'as vraiment le côté en attaque très croquant. Et t'as une finale, moi je trouve, sur le poivre. Enfin, c'est vraiment très très sympa, quoi. En fait, sur le bout de la langue, là.
On est sur un vrai rouge. Moi qui suis pas un grand fan des pinots noirs. Et pendant des années, j'en buvais pas. Pour moi, le pinot noir, c'est le vin des dimanches soirs, avec une tarte flambée un peu insipide et faite en famille. Voilà.
Bah là, t'en as goûté deux, normalement, qui t'ont convaincu.
Bah non, mais en fait, c'est pas vrai, parce que j'étais convaincu avant, puisque j'ai rencontré le domaine Thomas André et fils. Et l'un des frères qui m'a proposé de goûter un pinot noir, j'ai dit, je veux pas. Non, et vraiment, j'avais dit un non catégorique, je veux pas. Puis j'ai goûté, j'ai trouvé ça bon. Et là, je dis, tiens, il y a peut-être une histoire qui est en train de se... les pinots noirs ont peut-être évolué. Là, j'avoue que le tien, on est vraiment sur un rouge. J'ai l'impression d'avoir un... Autant on dit souvent que l'Alsace ne fait pas de rouge, ou n'est pas une grande région pour les rouges. Là, je trouve qu'on est à un niveau assez élevé.
Tu vois, moi, quand on parlait avant des perspectives pour l'Alsace, je pense que l'une des perspectives, c'est s'appuyer sur... Sans rentrer dans la guerre des cépages, je ne suis pas un grand fan non plus d'orienter tout vers les cépages, mais je pense que le Riesling est un des cépages. Sylvaner et Riesling sont les deux cépages où on peut vraiment s'appuyer dessus parce qu'il y a vraiment une histoire et un savoir-faire. Et le pinot noir. Quand on voit toutes les grandes régions de vin au monde, il y a toujours un blanc et un rouge. Et souvent, on se confronte encore à l'idée que les vins d'Alsace ne savent pas vieillir, que les blancs ne savent pas vieillir non plus. Et les grandes régions viticoles ont toujours un grand rouge à proposer. Mm-hmm. Et je pense que c'est une voie qui va s'ouvrir parce que pour faire un rouge, on peut pas tricher. Pour faire un rouge, il faut être dans une maîtrise des traitements déjà, parce que vu qu'on fait de la macération, si on est trop amoureux des traitements, on va perdre de la pureté aromatique, on va perdre de la complexité sur la prune de la peau. Les rendements, un pinot noir, ça ne triche pas. Si les rendements sont trop hauts, ça fait un côté à queue. Donc ça, je pense que c'est vraiment une porte qui va s'ouvrir avec les nouveaux producteurs de Pinot Noir qui vont être très intéressantes en termes de débouchés. Ça va faire une voie d'accès aux autres vins qui va être assez intéressante pour moi, je pense.
C'est intéressant ce que tu dis, j'avais l'idée complètement inverse. Pour moi, un blanc, tu ne peux pas tricher parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. Dès qu'il y a un défaut, tu vas le ressentir beaucoup plus que sur un rouge où tu as des tanins, tu as un peu plus de structure qui fait que tu vas le sentir.
En termes de matière pure, c'est vrai que bon, après, c'est un peu... Moi, en tête, j'ai un rouge, c'est un sprint. Un blanc, c'est un marathon. Un blanc, enfin dans la manière dont nous, dans l'idée qu'on a de le faire, c'est 10 mois de fermentation. Il faut être là régulièrement à tous les instants pour être précis, éviter que savoir ressentir. On n'intervient pas, mais il faut savoir ressentir ce qui se passe en cuve, fin de malo, reprise de l'AFA, est-ce qu'il y a des risques de début de développement bactérien. Mais le rouge, c'est il faut être précis les 3 semaines.
Les
3 premières semaines de macération, c'est là où ça se joue.
D'accord.
Et je trouve que les artifices que tu peux mettre pour compenser les manquements à la vigne sur un rouge, à la fin, au bout de 3 ans, 4 ans, ces artifices ils disparaissent et le vin, il est la colonne vertébrale elle réapparaît. Et c'est pour ça que je trouve qu'un rouge, c'est pas que ça triche moins, mais un blanc avec le SO2, avec SO2 en trop grande quantité ou avec des levures sélectionnées, enfin beaucoup de choses, tu peux pas tricher non plus très longtemps, mais j'ai tendance à penser que le rouge, on peut moins tricher que le... Enfin, moi, j'ai mon nez en tout cas sur un vin, quand tu vois les carboniques. Je trouve que la carbonique, c'est un procédé qui, dans le Beaujolais, fonctionne très bien pour le Gamay. Mais beaucoup de gens utilisent maintenant de la carbonique, mais je trouve que ça a une tendance un peu à lisser les vins. Quand c'est pas fait dans une vraie connexion avec un terroir. Mm-hmm. Et en fait, au bout de 2 ans, eh ben, la carbonique, elle a perdu de sa magie. Et en fait, tu te retrouves vraiment avec la colonne vertébrale du vin. Et là, tu vois, là, t'as une nouvelle dégustation qui s'ouvre à toi. Et c'est là où tu vois un peu si c'est... C'est pour ça que je suis attaché au fait que les vins vieillissent, parce que c'est là aussi une manière de voir ce qu'ils ont dans les tripes, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est plus trop à la mode de faire vieillir les vins, entre guillemets. Enfin, on en parlait dans un épisode précédent.
Les jeunes, la plupart n'ont plus de cave.
Là, c'est un peu comme fait Château Reyes. L'idée, c'est de... Dans d'autres, hein, là, c'est Château Reyes en tête. Mais d'arriver à garder les vins... Le producteur garde des vins, ils les mettent en vente quand ils pensent que c'est bon pour les boire.
Je pense que c'est vers ça qu'on va.
Évidemment, parce que c'est sûr qu'on peut plus avoir de cave.
Mais c'est vrai que les pinots noirs, souvent, on parlait de vin ringard dans le premier épisode, enfin dans l'épisode 5, souvent le pinot noir est montré du doigt. Pinot noir ou sylvanaire. Parfois le pinot blanc aussi.
Et tu vois, sylvanaire et pinot noir sont les deux cépages. Pour moi, le sylvanaire, c'est le cépage le plus exigeant en Alsace. Parce que c'est un cépage quantitatif, pas qualitatif. Si tu le laisses pousser. Normalement, c'est un cépage qui pousse comme un buisson. Beaucoup de mal à trouver de la verticalité du Riesling, par exemple. Donc, c'est un cépage, si tu travailles pas manuellement dans la vigne, il n'y a aucune machine qui peut le faire. Et donc, ça passe que... C'est pour ça qu'il y a une grande... Pour moi, je parle de génocide sylvanaire en Alsace, parce que sylvanaire est arraché massivement chaque année pour planter du Gewürz ou autre chose. Mais les gens qui ont une vraie idée du sylvanaire sont des vrais défenseurs du sylvanaire. Et donc, du coup, c'est pour ça que je parle que c'est un cépage qui peut être le reflet d'Alsace, parce que pour moi, c'est le vin du quotidien.
Ouais, moi, c'est un des cépages que j'ai redécouvert ces derniers mois.
Quoi. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il y a une disparition. Les gens qui ne savent pas le faire l'arrachent parce que c'est le prix au raisin se casse la figure, donc on ne met plus de sylvanaire. Les gens qui le vinifient mal n'arrivent pas à le vendre. Donc du coup, maintenant, il y a vraiment, ça devient... La production diminue, donc du coup, les producteurs sylvanaires sont vraiment...
Il y en a qui ne mettent même pas que c'est sylvanaire. Bah, je prends Yann Durman, hein, Immouterie, je crois, cuvée Immouterie, qui est un sylvanaire. Et il te fait bien demander quel est le cépage à votre avis. Et les gens et il est persuadé du fait, et je suis pas loin d'être d'accord avec lui, que s'il avait mis sylvanaire, les gens ne l'achèteraient même pas. Mais là, il a changé. En fait, c'est pas marqué sylvanaire.
Écoute, chez nous, les deux cuves emblématiques chez nous, c'est Mönchberg Riesling Grand Cru et le sylvanaire Vieille-Vigne. Et ouais. C'est entre
moi, j'ai goûté ton sylvanaire Vieille-Vigne de 2009. Voilà. Je crois que c'était au Boma à l'époque.
Et je t'assure que ça fait partie des grandes de l'identité du domaine, c'est ça. Après, on a la chance d'avoir des très belles vignes de sylvanaire aussi, mais moi, j'ai beaucoup d'espoir en sylvanaire parce que ça a une capacité à... Déjà, je trouve que quand c'est bien fait, ça vieillit quand même drôlement bien. Et pour piéger des amis à l'aveugle, ça marche très bien parce qu'on est un peu désorienté. Ça vieillit très bien, mais on n'a pas de mémoire là-dessus. Enfin, moi, du moins, en tout cas pour moi. Et en même temps, c'est un vin du quotidien qui est... Ça peut être un vin de cuisine, un vin d'apéritif, un vin d'accord. Il y a un peu toutes les facettes du sylvanaire. Mais par contre, ça nécessite une exigence à la vigne qui est pour contrôler les rendements, pour contrôler la pousse. Il faut être. Mais le problème, c'est que le rapport vente, le coût. par rapport à l'investissement à la vigne, pour beaucoup de domaines, n'est pas possible, parce que de toute manière, ça reste souvent le vin d'entrée de gamme, le premier vin. Quoi.
Moi, je le considérais comme vraiment un cépage ringard. Et... Je dois dire, je me suis fait avoir ces derniers temps. Je suis bien content. Pour ce qui est de ton Pinot Gris, je pense qu'il fait partie des grands vins.
Oui, complètement d'accord. Complètement d'accord. Qu'est-ce que tu manges avec ?
Moi, j'aurais mis une petite viande rouge, là, bien...
Ouais, bah, je pense que c'est un peu... Ouais,
pas en sauce, juste snacké comme
ouais,
ça.
Ouais, pas de sauce. Ouais.
Non, pas de sauce.
Parce que ça a pas la capacité de prendre de la lourdeur de la sauce. Il faut que ça reste...
Ouais, c'est ça.
Ou alors, un petit chocolat noir.
Oui.
Un petit chocolat noir, genre 70%.
De chez Christian, parfait.
De chez Christian ou au Cacao Experience, ouais, je les salue.
Oui, voilà.
J'ai découvert ça au marché de Noël de Strasbourg et je pense que ces petits mecs-là, d'ailleurs je vais les podcaster parce qu'ils font du chocolat de haute qualité, notamment un chocolat à base de lait de chèvre. C'est épatant ce qu'ils arrivent à faire. Et je trouve que j'ai goûté toute leur gamme, notamment leur gamme d'Inde, du chocolat d'Inde. Et je pense qu'il y a moyen de faire un mariage avec ça. En tout cas, merci pour cette dégustation. Tu parlais du Chili. Parle-nous de ton petit domaine au Chili, là.
Mon père a des amis chiliens qu'il a rencontrés au cours de sa vie, qui ont fui le Chili sous Pinochet. Et en fait, c'est des gens qui ont tout perdu. Donc, tous les héritages familiaux ont été parsemés, redistribués. Et certains ont refait leur vie en France. D'autres sont retournés au Chili pour faire la leur. Et en fait, ils avaient à cœur, à 45 ans, 50 ans, de refaire un projet en lien avec la terre. Parce que je pense que quand tu viens d'un endroit, c'est important de, tu as ouvert ta boutique de vin, enfin, ton bar à vin et tes cavistes, mm-hmm. t'avais besoin de te réintégrer physiquement dans un lieu qui t'est proche. Voilà. Mm-hmm. Et je pense qu'ils avaient la même chose. Et donc, du coup, ils ont cherché André qui était en pile poil à un moment donné où il avait un peu marre qu'il avait besoin d'avoir un nouveau projet. Et c'est comme ça qu'ils ont créé un petit domaine de 4 hectares dans la vallée de Casablanca entre Valparaiso et Santiago au Chili. Et c'est vraiment, en fait, une vigne qui a été plantée sur un terroir gréseux à peut-être 20 km à vol d'oiseau de la mer. Donc, il y a vraiment un vent marin, un climat océanique qui ramène des brumes dont la vigne permet de se nourrir et s'hydrater également. Donc le domaine s'appelle Monsecano, qui s'appelle le Mont Sec. Monsecano, c'est aussi une définition, un terme qu'on peut mettre sur les vins chiliens quand il n'y a pas d'irrigation. Donc là, je dirais pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'irrigation. Et voilà. Et en gros, c'est un petit projet à base de rien, de francs 6 sous et beaucoup d'amour, c'est un projet de copain. Moi, j'ai eu la chance d'y aller et en revenant sur le fond national noir, c'est un peu là où j'ai fait mes gammes parce que mon père est quelqu'un d'assez angoissé et d'assez précis dans sa création. Il a beaucoup de remises en question. Et c'est un peu en allant avec lui en 2016 au Chili. Il m'a dit, écoute, là, j'ai découvert un autre homme qui était beaucoup plus dans le côté relâché, détendu. Et donc, il m'a dit, vas-y, fais t'as une idée, vas-y, va au bout. Et c'est là où j'ai un peu fait mes gammes sur le Pinot Noir chilien. Et il m'a dit, ok, c'est bon, quand on rentre, c'est toi qui reprend en charge les rouges.
En tout cas, hâte de découvrir ça. Par contre, on va manger, on l'enregistrera pas, mais on prendra la photo comme ça. Moi, ça, vous le verrez. Merci, Adrien.
Merci encore.
Épisode.
Beaucoup, Arthur.
Merci pour
être venu. Merci à notre Pat Le Guen. Alors, ils connaissent pas, mais moi je connais, donc les références, on les a.
Et il a senti un vin.
Il a senti
peut-être
un vin.
Qu'au prochain podcast, il y glissera les lèvres.
Ça, c'est pas gagné. Hein. j'ai vaincu d'autres batailles, mais celle-là, à mon avis, je vais avoir du mal. En tout cas, fier d'avoir découvert le fils d'eux, mais en fait, je pense que Arthur Ostertag. Et bien là, je disais toujours en préambule, tu disais que tu avais peut-être rien à dire. Je pense qu'au contraire, ta voix compte aujourd'hui et doit compter dans le vignoble alsacien. Je pense qu'au du haut de ton âge de 27 ans, t'as un grand chemin. Et moi, j'ai envie de te suivre un peu comme on suit un artiste qui naît. Et on entend sa première chanson et puis finalement, on a envie de continuer. Et moi, j'ai envie de continuer là-dedans. Je suis assez touché parce que je trouve que tu as une belle âme et que alors on a eu la chance d'avoir des vignerons alors qu'ils sont pas très âgés ni Jean-Yves ni Florian mais qui ont un peu plus de bouteilles que toi et je pense que voilà, c'est pas péjoratif du tout dans ma bouche mais je pense que tu as une grande vie devant toi et je pense que tu vas émerveiller des papilles parce que tu as une belle personnalité et que je pense que parfois mets-toi un peu plus dans le monde du vin parce que je pense que le monde du vin a besoin de toi en tout cas le monde du vin en Alsace, a besoin de personnes comme toi. Fier d'avoir découvert un homme libre, finalement, comme le père. Parce que quand on entend les interviews du père, on sait d'où tu viens. En tout cas, merci pour cette aventure. Comment l'as-tu vécu ?
Très bien. Très décontracté et plus les verres passent et plus on se sent à l'aise.
J'avoue, les verres. Donc,
non, et merci pour. Merci
les bouteilles s'enchaînent. Je tiens quand même à préciser qu'on a une bouteille d'eau sceptique et elle est entamée. Hein. En tout cas, merci pour cette aventure, Arthur. Un petit dernier mot si tu as envie.
Merci d'être venu et puis comme on dit à la méno, yes gets close.
En tout cas, merci pour le prochain épisode. Et le prochain épisode, je peux vous dire déjà le vigneron que c'est. Parce que je l'ai revu au marché off. Il est pas loin d'ici. J'ai vu les deux tours du château qui m'ont émerveillé. Il s'agit de Yann
Durman.
Et nous serons chez lui au mois de janvier. Et j'espère qu'il aura son une espèce de chapeau péruvien qu'il a toujours au marché de Noël. Parce qu'il est drôle avec son bonnet péruvien. Merci à tous, merci à toi Arthur, et merci. On se retrouve pour l'épisode de Fish Bar.
Allez, à très bientôt.
Allez, au revoir. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.